Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Deuxième partie de cette émission avec toujours nos trois experts en plateau. Dorothée Rouzet, chef économiste à la Direction Générale du Trésor. Philippe Aguillon, professeur au Collège de France. Et Gilles Berset, professeur d'économie à la Neoma Business School. On va parler de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que la France peut rattraper son retard? Un rapport a été remis à la mi-mars à Emmanuel Macron. Il contient 25 propositions pour faire de notre pays un pays à la pointe de l'intelligence artificielle. Philippe Aguillon, vous êtes co-président de cette initiative aux côtés d'Anne Bouvreau. D'abord, un état des lieux. Je le disais, 600 auditions, 7000 consultations pour construire ce rapport. Qu'est-ce qu'il en est d'abord ressorti en termes de constat, d'état des lieux ?
En termes de constat, d'abord, on a voulu regarder un peu quel est... D'abord, le constat, c'est que c'est une véritable révolution technologique, au sens que ça affecte tous les secteurs d'activité, quoi. L'économie, l'organisation du travail, les services publics, l'information, la culture. Donc, c'est vraiment une révolution technologique, comme la machine à vapeur, comme l'électricité, comme les technologies de l'information l'ont été avant elle. Ensuite, il y a eu une accélération de cette révolution avec l'IA générative, avec le ChatGPT. Maintenant, eh bien, voilà, on peut générer des textes, des images, des sons à une vitesse incroyable. Il a fallu 5 jours pour que ChatGPT atteigne 1 million de souscripteurs. Alors que Netflix, il a fallu 2 ans et demi. Instagram, 2 mois et demi. Donc ça montre l'accélération extraordinaire. Donc c'est une révolution, c'est une déferlante. Et on ne peut pas y échapper. Donc le tout, c'est comment on peut le mieux s'y adapter.
Mais est-ce que la peur de cette révolution n'a pas conduit la France et l'Union européenne à pêcher par excès de prudence? Je me rappelle, fin 2022, une tribune qui était signée des grands noms de l'intelligence artificielle, notamment Sam Altman, comparait les dangers de l'IA à ceux d'une guerre nucléaire qui aurait pu éradiquer l'humanité.
Alors justement, c'est là qu'on essaye dans ce rapport de dédramatiser, sans idéaliser non plus. Et on a déjà commencé à regarder, à faire une étude basée sur 9000 entreprises, et c'est grâce à des données de l'IMSEE, de 9000 entreprises françaises. On a comparé des entreprises qui adoptent l'IA à des entreprises similaires qui ne l'adoptent pas. Et on voit qu'au global, ils créent de l'emploi. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui adoptent l'IA deviennent plus productives, plus compétitives, elles augmentent le marché pour leurs produits, et donc elles augmentent davantage. Alors, cet effet positif sur l'emploi est global. Il n'affecte pas uniformément tous les emplois. Il y a des emplois, à peu près 10% d'emplois, qui vont être risqués, dont la plupart des tâches vont être rendues redondantes par l'IA. Et c'est là qu'il faut une bonne organisation. Il faut un bon système de formation et une bonne organisation du marché du travail pour être sûr que ces individus rebondissent sur de nouveaux emplois. Mais voyez, quand même, là où on nous annonçait un risque existentiel de l'IA, que tous les emplois vont être supprimés, ben, en tout cas, on voit que pour le moment, l'IA a des potentialités de création d'emplois, pas uniformes, il faut que le centre s'adapte. Elle a aussi des potentialités de croissance, parce qu'elle permet d'automatiser en partie non seulement la production des biens et services, mais la production des idées. La recherche devient beaucoup plus productive grâce à l'IA. Et ça, ça crée des perspectives de croissance qui sont très importantes. Mais là, à nouveau, il faut faire attention, parce que l'IA est dominée par quelques grands, les GAFAM, quelques grosses, des entreprises superstars, et qui peuvent, à cause du manque de concurrence, décourager l'entrée de nouveaux acteurs. Donc vous voyez, à nouveau, à chaque fois, il ne faut pas dramatiser sur le plan de l'emploi. Il y a des perspectives qui sont beaucoup plus radieuses, mais il faut un marché du travail adapté. Il y a des perspectives de croissance, mais il ne faut pas être non plus angélique sur les perspectives de croissance, parce qu'il y a aussi des obstacles potentiels. Et il faut donc, l'idée, c'est de dire, c'est un truc formidable, l'IA, mais il faut adapter nos politiques et nos institutions pour tirer le meilleur parti des potentialités de croissance et d'emploi de l'IA.
25 propositions pour que la France tire parti de cette révolution. Avant d'en avancer quelques-unes, Gilles Berset, on a quand même le sentiment qu'on a pris un sacré retard.
Oui, après un sacré retard, je voudrais rebondir sur ce que dit Philippe, avec quoi je suis complètement en accord, pour souligner quand même deux aspects. D'une part, et quand on regarde dans le rétroviseur des précédentes révolutions technologiques, les révolutions technologiques ne sont pas l'ennemi de l'emploi. sont pas factrices de chômage au niveau macroéconomique, au niveau des, à l'échelle des pays. Bien sûr, localement, il peut y avoir des emplois qui sont changés, qui disparaissent, etc. Mais ce qu'on sait des révolutions technologiques précédentes, qui ont été quand même assez nombreuses sur les 150 dernières années, c'est que ces révolutions n'ont jamais été l'ennemi de l'emploi, n'ont jamais été factrices au niveau macroéconomique, au niveau des pays, de chômage.
On donne toujours l'exemple des allumeurs de réverbères qui, si on les avait écoutés, nous auraient empêchés d'avoir l'électricité.
Absolument. Puis Alfred Sauvy donnait l'exemple du porteur d'eau à Paris. Il y en avait 20 000, vous voyez. On est très content quand même. Personne ne donne comme perspective de destin pour ses propres enfants de devenir porteur d'eau. Donc on est très content que cette profession ait disparu comme le poinçonneur des lilas. Alors ça, c'est un premier point qui me paraît important. Deuxième point, et d'ailleurs c'est un peu une question à Philippe, on attend des révolutions technologiques d'aboutir aussi à des gains de productivité, à une accélération de la productivité au niveau des pays. Et donc source d'amélioration du niveau de vie pour l'ensemble des citoyens. Néanmoins, quand on regarde sur les 20 dernières années, on s'est trompé, et on s'est très fortement trompé, dans les attentes qu'on pouvait avoir les uns et les autres sur la diffusion des technologies d'information et de la communication. Avec d'autres, j'ai écrit au début des années 2000, vous allez voir ce que vous allez voir, les technologies d'information et de la communication, ça va aboutir à une accélération de la productivité absolument phénoménale dans l'ensemble des pays développés. Ça n'a pas été le cas. Donc, qu'en penser, que penser sur ce plan-là de l'intelligence artificielle?
Je peux peut-être dire juste un mot, peut-être Philippe, avant En fait, sur les révolutions d'éthique, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, donc d'abord, il y a eu Solo qui a dit on voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques. Mais juste après, aux États-Unis, on voit qu'il y a eu quand même une éruption de croissance pendant 10 ans. Si on regarde la croissance moyenne de la PGF, de la productivité globale des facteurs, entre 1995 et 2005, entre début d'année, ça a été très fort aux États-Unis, parce que tu as eu la diffusion d'éthique. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, tu as eu des entreprises superstars qui ont émergé, les GAFA, femmes, et elles ont fini par inhiber l'entrée et l'innovation des autres. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elles ont été porteurs au début, porteuses de croissance, elles étaient plus productives, elles ont tiré parti de la révolution de l'Internet, etc. Mais elles, grâce à des fusions-acquisitions sans limite, elles sont devenues tentaculaires et elles ont fini par décourager l'innovation de nouveaux entrants. Et le problème qu'on a avec l'IA, c'est que dès le début, dans les segments à mon, notamment le cloud, la puissance de calcul, on a déjà la dominance des gros. Et donc la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir modifier et améliorer la politique de concurrence pour que ce pouvoir, que ce potentiel de croissance des révolutions technologiques puisse être libéré.
Je vous donne quelques réactions sur les réseaux sociaux. Les amis européens nous disent voilà, vous formez les seniors à l'IA et vous réglez deux problèmes en même temps. Voilà, petite boutade par rapport au sujet précédent. Réaction également par rapport au sujet d'avant. Il est peut-être temps, nous dit Choc sur Twitter, temps de se réveiller, il faut arrêter de faire le marché, de faire marcher le pays en arrière, juste parce que le luxe et les vins pour qu'ils soient vendus. Voilà. Arrêtons la puissance des lobbies, nous dit-il. Peut-être un mot sur l'IA avant de détailler les mesures proposées avec Philippe Aguillon.
Oui, moi je vais réagir sur deux points. Le premier, c'est sur le retard de la France et de l'Europe d'ailleurs dans l'IA. Oui, on est en retard, surtout par rapport aux gros américains. Après, il faut voir que l'IA, c'est toute une chaîne de valeur. Et il y a plein de segments et on n'est pas en retard partout, on n'est pas autant en retard partout. Alors c'est vrai que sur les gros calculateurs, sur les gros modèles, sur le cloud, on est très loin.
Très loin derrière Nvidia, par exemple.
Voilà. Par contre, il y a aussi des atouts en France sur lesquels on peut capitaliser, sur des segments aussi qui vont être importants. On a une électricité décarbonée. Or, on sait que les gros modèles d'IA, ils sont très très consommateurs en énergie. Donc, à la fois peut-être sur des modèles un peu plus frugaux, un peu plus sobres, et sur des modèles faiblement consommateurs d'énergie, on peut avoir un coup à jouer. On a une recherche en IA dont on n'a pas à rougir. On forme des très bons chercheurs. On a une recherche même en France qui est assez bonne. Alors, notre problème, c'est plus la rétention des bons chercheurs qui vont travailler aux États-Unis, mais on a un vivier quand même de gens qui sont très bons. Et puis, on a aussi peut-être un coup à jouer sur des sujets, peut-être des modèles plus sectoriels, mais là où on a des très bonnes données, on a des très bonnes données de santé, on a des très bonnes données dans le domaine du droit, où il peut y avoir aussi des modèles plus spécifiques, mais qui rencontreront un marché et où on peut s'appuyer sur des bonnes données. Donc après, évidemment, voilà, il faut transformer l'essai, et ça prend beaucoup de choses, et le rapport de Philippe est très intéressant pour ça. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se dire qu'on part perdant sur tous les tableaux. Et puis, un deuxième point très rapidement, c'est aussi rebondir sur la question des gains de productivité. Je pense que voilà, on se focalise aussi sur comment on se positionne dans la production d'IA. Il ne faut pas oublier l'utilisation, parce que c'est du côté de l'utilisation que viendront les gains de productivité. Et c'est là qu'on a aussi beaucoup pêché sur la précédente vague d'innovation technologique, c'est que finalement, il faut aussi que les entreprises s'en saisissent, que jusqu'au tissu de PME, qu'ils adaptent un peu leurs méthodes, qu'ils forment les gens encore une fois. Et en fait, si on n'a pas cette diffusion dans tout le tissu économique, les gains de productivité, ils resteront à la porte.
Philippe Aguillon, parmi les 25 mesures que vous avez transmises à Emmanuel Macron, quelles sont celles qui vous semblent le plus emblématiques?
Oui, disons qu'alors d'abord, on veut lancer un grand plan de sensibilisation et de formation de la nation. Donc, grand débat, café, IA, formation à l'école, l'IA dès le début.
Donc, évangélisation.
Voilà, évangélisation dans l'enseignement supérieur, mettre l'IA dans toutes les disciplines, l'IA, les droits, l'IA, la médecine, etc. Donc, et former des personnes qui vont diffuser l'IA dans l'économie, comme le disait Dorothée. Donc ça, c'est vraiment un grand plan de formation. Ensuite, le deuxième volet, c'est qu'on veut réorienter structurellement l'épargne vers l'innovation et créer à court terme un fonds IA de 10 milliards d'euros pour financer l'émergence d'écosystèmes d'IA et la transformation du tissu économique français. On veut faire de la France un pôle majeur en puissance de calcul, et ça, on pense qu'on peut faire des choses sur la puissance de calcul. On veut faciliter l'accès aux données. Par exemple, les données de santé que tu mentionnais, que Dorothée mentionnait, par exemple, il faut des autorisations préalables pour les chercheurs pour utiliser des données de santé. Des fois, ça peut prendre 18 mois. Donc, l'idée, c'est de dire, essayons de passer plus à une logique a posteriori, qui est celle de la RGPD,
la
réglementation générale des politiques de données européens, et passer à une logique plus a posteriori, et ne plus avoir besoin d'autorisation préalable pour l'accès des chercheurs aux données de santé, pour aller beaucoup plus vite dans l'innovation. Voilà. Une exception IA dans la recherche, puisque, en fait, le gros problème, c'est que les chercheurs, ils vont trop vite vers le privé, ils ne restent pas assez vers le public. Donc là, on peut imaginer différents schémas, par exemple des IUF, des super IUF, Institut Universitaire de France, avec des moyens pour des très bons chercheurs en IA. On peut permettre à des chercheurs d'être un peu dans le public, un peu dans le privé, de favoriser des... Vous voyez, de faire en sorte que les chercheurs puissent rester en partie au moins dans le public et n'aillent pas tout de suite vers le privé. Faire en tout cas une exception IA. Et puis une gouvernance mondiale de l'IA, création d'une organisation mondiale de l'IA pour évaluer et encadrer les systèmes d'IA. Voilà, ça c'est un peu les grands actes. Mais c'est vraiment l'idée politique industrielle de l'IA et ouverture aux données. On est très pour le open source, on est très pour données accessibles, on est très pour que le DMA, le Digital Market Act, soit étendu à toute la chaîne de valeur de l'IA. Donc il faut dire tout un volet concurrence et volet industriel. Et on n'oppose pas les deux. On pense que les deux se renforcent l'un l'autre. Politique industrielle et concurrence.
Quand vous dites 10 milliards d'euros pour le financement, est-ce que c'est vraiment à la hauteur des enjeux? On voit que les Américains sont capables de mettre des montants démesurés sur la table.
Non, ça c'est à court terme. D'accord. Notre plan, lui, prévoit d'investissement public 5 fois 5 milliards d'investissement public. Mais l'idée, c'est de mobiliser des investissements privés.
Sachant que généralement, l'investissement public attire les capitaux privés.
Évidemment, voilà. Donc l'idée, c'est de mobiliser l'investissement privé. Et donc on dit à court terme ce fonds, mais ce qu'on propose de dépenser, c'est 5. Là, probablement, c'était 3 milliards sur 8 ans, dans le plan précédent. On propose de passer à 5 fois 5 milliards d'argent public, qui ensuite, pour développer des acteurs IA et diffuser l'IA. Mais en même temps, l'idée, c'est évidemment de mobiliser le capital privé.
Est-ce qu'elle est très claire, Gilles Berset, la chaîne de valeur sur l'IA? On a l'impression que depuis quelque temps, il y a des doutes sur la capacité des industriels à commercialiser l'IA. On ne va pas donner de nom d'entreprise, mais un éditeur de logiciels avec des fonctionnalités intelligence artificielle pour gagner en productivité, il a du mal à augmenter ses prix. Pourtant, l'entreprise va y gagner en productivité.
Oui, parce que ce que j'apprécie énormément dans le rapport qui a été dirigé par Philippe et par sa co-directrice, c'est le fait que les deux dimensions qui ont été rappelées tout à l'heure par Dorothée, à la fois l'utilisation et la production, sont vraiment soulignées. Comment à la fois faciliter l'extension, la diffusion la plus forte de l'utilisation de l'IA, et comment éviter du côté de la production d'abord que l'Europe soit distancée, et ensuite que des monopoles, des semi-monopoles ou des grandes entreprises érigent des barrières à l'entrée pour des nouveaux producteurs sur différents segments de la chaîne des valeurs. Je suis qu'à moitié convaincu par la démonstration qu'a faite tout à l'heure Philippe, parce que ce qu'il disait sur les barrières à l'entrée pour la production, c'est évidemment essentiel, mais les gains de productivité se manifestent surtout dans l'utilisation de l'IA, et de l'IA comme des technologies d'information et de la communication. Et les technologies d'information et de la communication sont utilisées par tous, par tout le monde, tous les jours, dans tous les lieux de notre activité. Et pourtant, on n'a pas, nous, en Europe, gros utilisateurs, bénéficié de gains de productivité. Donc il y a une énigme, il y a un puzzle qu'il faut encore comprendre, résoudre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce puzzle. Mais il y a une énigme, mais du côté de l'IA, est-ce qu'il pourrait ne pas en être exactement de même? C'est-à-dire qu'une diffusion massive, généralisée de l'IA, pourrait-elle se faire sans des gains de productivité forts, tangibles, au niveau des pays? C'est ça l'interrogation qu'il y a. Et on n'est pas au niveau de la production et des barrières à l'entrée que tu soulignes à juste titre, hein, oui. de ces risques-là que tu soulignes à juste titre. C'est au niveau de l'utilisation. Voilà. On n'a pas compris ce qui s'est passé précédemment.
Si on regarde quand même les révolutions précédentes, il y a eu quand même 10 ans à chaque fois d'augmentation de croissance. Mais c'était 10 ans et c'était temporaire. La question est de savoir, est-ce que l'IA... Alors tu as raison, il y a l'énigme de la diffusion, mais il y a aussi les faits, est-ce que l'IA, à la différence des révolutions précédentes, peut générer des gains de croissance plus durables que 10 ans? Et le pari, c'est que dans la mesure où on améliore la technologie de production des idées, pas juste la technologie de production des biens et services, on aurait l'espoir qu'il pourrait y avoir des gains de productivité, de croissance productivité plus durable. Mais ça, évidemment, c'est une conjecture. Hein.
On va passer à votre carte blanche. Juste avant, je vous donne une réaction réseaux sociaux. Mascotte Dontla, il nous dit, on ne peut pas comparer les révolutions précédentes avec celles de l'intelligence artificielle, car celle-ci concerne les métiers intellectuels. Les précédentes concernaient des métiers manuels. Et c'est pour ça qu'elle est différente. Il nous reste assez peu de temps. On va faire un tour de table.
Mais là-dessus, on peut répondre également. Mais on n'a pas le temps.
Oui, voilà. On est un petit peu pris par le temps.
On aurait pu répondre, mais s'il veut me contacter, anytime.
Sur les réseaux sociaux. Vous avez choisi tous les trois un sujet qui vous semble important et sur lequel vous souhaitez vous exprimer. On va commencer avec vous, Dorothée Rouzet. Vous vouliez parler du marché unique européen.
Oui, je voulais en parler parce que déjà c'est l'occasion d'essayer de parler d'Europe en positif et ça revient pas si souvent que ça dans le débat. Et puis c'est un sujet sur lequel par ailleurs l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta doit remettre des propositions dans les prochains jours. Donc pour revenir sur le fait que le marché unique, c'est pas un sujet de techno en un sens, mais c'est au cœur de la construction européenne depuis le début, hein, depuis le traité de Rome de 1958. Oui. Et que ce dont on parle côté européen en termes de contraintes, à la fois de réglementation, de contraintes sur la concurrence, sur les aides d'État, etc., c'est aussi la contrepartie des bénéfices que ça nous a apporté d'être un marché de plus en plus intégré sur les biens, les services, les personnes. Dans le marché européen, on a le plus gros marché de consommateurs. On a 450 millions de consommateurs. On a 23 millions d'entreprises. C'est le terrain de jeu des PME exportatrices. C'est-à-dire que les PME qui exportent en Europe, elles font 70% de leurs exportations au sein du marché unique. Et quand on s'est penché sur quels ont été les impacts, quand on regarde en perspective longue, on a publié au Trésor un petit document sur le sujet. Et on voit que sur les décennies écoulées, à la fois, on a eu un vrai impact en termes de concurrence qui bénéficie aux consommateurs. C'est-à-dire que donc les markups, c'est-à-dire la marge entre le coût et le prix chargé, pendant qu'il augmentait aux États-Unis, il est resté stable en Europe et il y a une partie de ça qui est liée au fait qu'on a un marché assez concurrentiel sur les biens notamment. En termes de productivité, ça a permis aux entreprises européennes d'avoir plus de taille, en fait, de croître. Donc les plus productives ont pu avoir plus de croissance. Et là aussi, il y a des études qui estiment que c'est la moitié des gains de productivité européens sur la décennie 2010, c'est dû à ça. Et inversement, ce qu'on n'a pas vu et qu'on pouvait craindre, c'était une spécialisation. On pouvait craindre que, du coup, dans ce grand marché, on allait avoir l'industrie à haute valeur ajoutée qui se concentre dans certains pays, les secteurs à faible valeur ajoutée qui se concentrent dans d'autres. Et ça n'a pas été le cas. Au contraire, les pays ont plutôt convergé en termes de structure. Pour dire que quand même, beaucoup d'aspects, l'Europe sur le plan économique, ça apporte aussi des bénéfices. Et du coup, ça vaut le coup de se pencher sur ce qui manque. Alors, ce qui manque, c'est sur les marchés de capitaux. On a encore un marché très fragmenté. Ça rejoint pas mal le sujet dont on vient de parler sur l'IA, parce que l'union des marchés de capitaux, là aussi, hein, ça a l'air de jargon technique. Ce que ça veut dire, c'est les entreprises qui cherchent à se financer, en fait, elles se financent largement sur 27 marchés et pas sur un seul. Et donc, en termes de taille, en termes d'échelle, en termes de financement plus risqué de l'innovation, c'est un vrai handicap par rapport aux États-Unis. Et puis aussi sur les services ou sur l'électricité, il reste des choses à faire. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un vrai réservoir de croissance qui ne coûte rien aux finances publiques et ça compte dans les temps qui courent. Et donc je pense que ça serait bien que ça fasse partie du débat européen qu'on va avoir dans les prochains mois. Voilà.
La carte blanche de Philippe Aguillon rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, puisque Philippe, vous vouliez parler d'innovation en Europe.
Oui, il y a un autre rapport qui vient de sortir, auquel Jean Tirole avait participé, avec Daniel Gross et d'autres auteurs, qui étaient initiés par l'école de la Bocconi, sur la politique d'innovation en Europe. Et je ne veux pas rentrer dans le... Et en fait, ce qu'il ressort de ce rapport, c'est que, alors que les États-Unis, investissent beaucoup de la R&D, innovent beaucoup dans le high-tech, les logiciels, les computer services et pharmaceutiques, tout ce qui est donc pharmaceutique d'un côté et software, ordinateur, etc. L'Union européenne, on est dans une trappe de mid-tech. Vous voyez, et surtout automobile, etc. Donc on reste, il y a un peu l'idée de dépendance au sentier. On a été très bon dans ces mid-tech et on reste bloqué encore dans ces mid-tech. Voilà. Et on ne va pas suffisamment vite vers les high-tech et vers la frontière.
Voilà. Quels sont les freins?
Eh bien, en tout cas, le rapport, en tout cas, met l'accent sur un aspect. Je dis, c'est pas le seul aspect. On pourrait voir toute la chaîne d'innovation. Je pense qu'aux États-Unis, la recherche fondamentale est beaucoup mieux financée. Ils ont un capital risque beaucoup mieux financé. Ils ont des investisseurs institutionnels beaucoup plus développés que chez nous. Donc, il y a toute une chaîne d'innovation. Mais ils ont également quelque chose. Ils ont les DARPA, Defense Advanced Projects Research Agency. C'était une manière moderne de faire de la politique industrielle, mais qui a poussé vers les high-tech. C'était fait dans les années 50 parce que il y avait la concurrence avec l'Union soviétique sur l'espace et la défense. La DARPA, c'est une manière très moderne. L'argent vient d'en haut, il y a plein de chefs d'équipe, et puis ils suscitent des projets concurrents. Et c'est comme ça qu'ils ont mis des hommes dans l'espace, que l'Internet et tout ça sont des inventions qui sont en fait des corollaires de ce que la DARPA avait initié.
Et on devrait
s'inspirer. Après, ils ont fait la ARPA dans le domaine de la biologie qui fait qu'on est tous là, c'était les vaccins. Vous voyez, l'ARN messager, il y a eu plein de labs qui ont financé des vaccins basés sur l'ARN messager. Ils ont des choses pour faire ça. Ils vont vers le high-tech. Et nous, on a quelque chose qui est l'équivalent de ça, mais qui est le European Investment Innovation Council, qui se veut une DARPA, mais dont ils expliquent que ça ne fonctionne pas du tout comme la DARPA. Et en fait, ça va beaucoup vers les petites et moyennes entreprises qui sont déjà dans des segments beaucoup plus près de la commercialisation, qui vont beaucoup moins sur les maillons très préliminaires, les maillons les plus frontières, voyez. Et c'est ça que ce rapport explique très intelligemment. C'est que cette European Innovation Council, qui voudrait être une DARPA, n'est pas du tout une DARPA de plein de... Elle n'est pas gouvernée comme telle, et en fait, elle favorise beaucoup des PME, et c'est très bien d'aller vers les PME, mais des PME qui sont déjà très dans les segments mid-tech, quoi, et pas tellement dans le high-tech. C'est très intéressant, parce que ça voilà quelque chose qui pourrait être fait au niveau européen, peut-être avec le European Buy Act, mais de dire, voilà, ayons une nouvelle politique d'innovation avec une nouvelle gouvernance, et ce rapport, je le recommande, parce qu'il donne vraiment des pistes très intelligentes pour comment l'Europe peut devenir un nouveau frontière en innovation.
De l'économiste Jean Tirole. On va terminer avec votre carte blanche à vous, Gilles Berset. On parle beaucoup d'emploi en ce moment. Comment est-ce qu'on peut améliorer le taux d'emploi?
D'abord, il faut constater que les difficultés de finances publiques en France, quand on les évoque en ce moment, c'est une grande banalité, puisqu'elles ont été largement dans l'actualité récente, mais on est un pays qui dépense énormément, qui taxe aussi énormément. On est champion toute catégorie sur ces deux créneaux, mais on a beaucoup de difficultés en ce moment pour financer la transition climatique, pour financer des projets ambitieux comme le soutien à l'IA, pour financer des réformes structurelles pourtant indispensables comme celle de l'éducation nationale. Et on a ces difficultés fortes. Pourquoi ? Mais parce qu'on est un pays relativement pauvre comparé à d'autres pays qui sont dans notre entourage immédiat. Si on compare la France à un pays comme les Pays-Bas, par exemple, on voit que le produit intérieur brut par habitant en France est près de 20 points en dessous de celui des Pays-Bas. C'est quelque chose d'énorme quand même, 20 points en dessous de celui des Pays-Bas. Vous voyez, je ne compare pas aux États-Unis, on est 30 points en dessous des États-Unis. Mais même par rapport aux Pays-Bas, 20 points en dessous. Et quel est le principal facteur de cet écart par rapport aux Pays-Bas ? C'est un faible taux d'emploi. Un taux d'emploi qui est en France d'environ 68%, alors qu'il est de 82% aux Pays-Bas pour la population âgée de 15 à 64 ans. Alors, Rêvons d'un coup, qu'est-ce qui se passerait si la France, immédiatement, d'un coup de baguette magique, rejoignait le taux d'emploi des Pays-Bas? Ben, même avec des hypothèses vraiment très très prudentes, que les nouvelles personnes en emploi auraient une productivité moitié moindre de ceux qui sont déjà en emploi, eh bien le produit intérieur brut serait plus élevé en France de plus de 10%. Et compte tenu de notre taux de prélèvement obligatoire, c'est environ 140 milliards d'euros par an qui arriverait dans les caisses publiques. Donc vous voyez, les difficultés qu'on a à financer des réformes structurelles, les difficultés qu'on a à financer des programmes ambitieux comme ceux de l'IA, les difficultés qu'on a à financer une quantité de choses, le désendettement public et le caractère indispensable de ce désendettement, disparaîtraient immédiatement. Et sur quoi on doit agir? Sur trois populations pour lesquelles le taux d'emploi est particulièrement bas quand on se compare à un pays comme les Pays-Bas. Les jeunes, bon, des réformes sont en cours, peut-être que les plus prometteuses d'ailleurs sont assez peu évoquées dans le débat public. Je parle entre autres des lycées professionnels, les personnes non qualifiées, et là aussi des réformes sont en cours. Celle de l'indemnisation chômage, celle du RSA, etc. Et puis, les seniors, et des réformes sont en cours, celle des retraites. Donc, cet effort de réforme doit être maintenu, doit être amplifié, doit être prolongé, coûte que coûte, sur les prochaines années, parce que dans l'attente du bienfait peut-être potentiel de gains de productivité qui pourraient nous arriver de la diffusion de l'IA, eh bien, la France peut retourner en avantage ses inconvénients actuels et bénéficier d'un enrichissement qui viendrait simplement d'un rapprochement de sa situation en termes d'offre de travail de celle qu'on observe sur des pays qui sont pas si éloignés, qui sont pas des enfers sur Terre et dans lesquels les gens d'ailleurs semblent finalement assez heureux.
Très très vite, vous parlez de productivité. On sait qu'en France, on a de gros efforts à faire. On a une productivité qui se dégrade. Est-ce que ça va pas contre le taux d'emploi, justement?
Alors, la productivité qui se dégrade aussi pour des raisons tout à fait logiques. Le taux d'emploi en France a augmenté. L'augmentation du taux d'emploi est un facteur de baisse de la productivité, parce que les personnes qui rejoignent l'emploi, qui étaient à l'écart de l'emploi, qui rejoignent l'emploi, sont bien sûr pas les personnes les plus productives qui étaient déjà en emploi. Et l'augmentation longue du taux d'emploi et importante du taux d'emploi que je viens d'évoquer se traduira aussi par une baisse de la productivité, un décrochage de notre niveau de productivité par rapport aux États-Unis. On avait, il y a encore une dizaine d'années, un niveau de productivité, certains disaient, regardez, on est équivalent aux États-Unis, voire peut-être légèrement supérieur en termes de productivité horaire au niveau américain. Ben oui, mais c'était pour de mauvaises raisons. On concentrait l'emploi sur la part de la population qui était la plus productive. Ce faisant, évidemment, ouais, on avait un niveau de productivité horaire énorme. À partir du moment où on élargit l'offre de travail, bien sûr, on fait baisser la productivité. Néanmoins, ça se traduit aussi par un enrichissement global de notre économie, une augmentation du produit intérieur brut par habitant.
Merci beaucoup. Gilles Berset, professeur d'économie à la Neoma Business School. Merci à Philippe Aguillon, professeur au Collège de France. Merci pour ce rapport sur l'intelligence artificielle dont on a pu parler. Et merci également à Dorothée Rouzet, chef économiste à la Direction Générale du Trésor. À suivre, Lorraine Goumeau et toute son équipe pour Tout pour Investir. Je vous retrouve demain à partir de 9h. Très bonne journée.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.